sin piedras, con sus labios sin dientes, llegó la muerte, llegó para gritar, con su boca sin lengua, con sus labios sin dientes, llegó la muerte. J'ai vu le visage de la mort, la course rompue des chevaux, la marelle qui tire sort, le dernier souffle des naseaux, que l'on soit roi ou chercheur d'or, ruisselant d'oseille ou bourreau, on est coupé dans son galop, un bon matin d'un coup de mort. J'ai vu le visage de la mort, le rythme indolent d'un tango, son épiderme au corps à corps, sa hanche froide de margot, que l'on sait trahir par le cœur, dans l'aigre moiteur du tripot, ou dans un lit crevé de fleurs, c'est toujours danse avec la mort. J'ai vu le visage de la mort, un oiseau noir couvrant le ciel, sa peau de caillou carnivore, et l'on voudrait que je m'endorme, que je vive parmi ses porcs, craintive comme une pucelle, me quoi sert-il de vivre, si c'est pour vivre, à moitié mort.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires,
le mouvement anarchiste,
une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Bonsoir à tous. Pour cette nouvelle émission de Musique en Lutte, nous sommes trois de notre collectif avec Adrien Josselin et moi, Daman. Nous sommes avec la compagnie Joli Môme au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis, théâtre qui va être expulsé. Votre compagnie a été créée en 1983. Elle s'est illustrée par de nombreux spectacles engagés, que ce soit des pièces de théâtre, des comédies musicales, des concerts. Vous défendez dans vos interventions et dans vos morceaux des convictions libertaires. Vous êtes actif aussi bien dans ce théâtre que dans la rue, dans les manifestations que dans les concerts de soutien. Vous êtes également organisateur d'événements, vous accueillez des résidences, vous produisez des disques, etc. Voilà pour une courte présentation d'un collectif qu'on connaît bien, Radio Libertaire, et qui est du bon côté de la barricade. Donc on va prendre le temps dans cette émission de parler de tout ça. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de la création de la compagnie qui a eu lieu, je le rappelle, en 1983.
Bien oui, bonjour, donc moi c'est Michel. J'étais là, donc Flo parlera plus tard à propos de la création de Joli Môme. Moi je suis donc fondateur de la compagnie, avec des copains bien sûr à l'époque. Enfin je suis le seul qui soit resté de ces copains-là, il y a 40 ans. Après j'ai été rejoint par Pascal qui n'est pas là à l'instant et l'année d'après, donc quand même il y a c'est quand même 39 ans, maintenant 40 ans puisque l'arrivée un an après et qu'on va bientôt à l'année d'après de la création de la compagnie. Bien, au début on est une troupe de théâtre, on n'est pas un groupe de musique. Hein. Au départ on a juste l'ambition de... une ambition même, comment dire, inatteignable pour nous. De devenir intermittent, de pouvoir gagner notre vie en faisant du théâtre. Bon, moi j'avais déjà été comédien pendant 10 ans au théâtre de l'Épée de Bois, comédien permanent d'ailleurs, enfin on l'appelait. On était permanent mais payé très peu, hein. très peu, mais quand même. Enfin, dans les dernières années, au début c'était quand même, même pas même, enfin, payé mais pas déclaré. Bien, bon voilà, comme tous les jeunes groupes. Cette ambition de faire du théâtre, on s'est dit, avec cette ambition, on s'est dit, mais ce qui est important pour une troupe de théâtre, c'est d'avoir un lieu. Parce que la cartoucherie, je venais donc de la cartoucherie, le théâtre de l'Épée de Bois, hein, pas du théâtre du Soleil. C'est
Bois à Vincennes, du coup, la cartoucherie.
Pas à Vincennes, c'est à Paris, mais enfin, c'est dans le bois de Vincennes, oui. Donc là, il faut trouver un lieu, parce que bah, moi, pour moi, le théâtre, c'était tous les jours au théâtre. On construit des décors, on aménage le théâtre. Dès le départ, c'est devenu, pour moi, le théâtre, c'est un lieu. Comment trouvé un lieu. À partir du moment où la compagnie s'est créée, c'est plus la même que celle dans laquelle j'étais. Hein. Et j'ai découvert le théâtre très jeune, parce que j'étais viré du lycée, j'étais un jeune activiste adolescent, un peu comme tous les jeunes, quoi. Un peu nerveux, un peu peut-être brûlé. Et j'ai découvert la discipline. Alors voilà, tu vois, quand tu dis libertaire, bah oui, pour moi, on n'est pas libertaire si on n'a pas de discipline. Voilà, c'est une chose importante. Et une discipline, en même temps, avec la discipline d'art martial. Parce que je suis tombé dans un théâtre, c'était comme ça à la base, hein, le théâtre de l'épée de bois, donc, très rigoureux, très impardonnable sur les retards, une sorte d'école de dur, une école de dur. C'était drôle parce qu'on partageait le bâtiment avec des babacools complètement fumeurs de pétards toute la journée qui se la coulaient douce.
Ouais, parce que vous ne fumiez pas de pétards.
Mais pas en travaillant. Voilà. Pas en travaillant. Mais d'abord c'était les hippies et nous. Voilà, pour donner l'idée. Hein. Nous c'était, pour faire à donner. On était cheveux très courts et rangers, quoi. Voilà, en gros. Mais on s'entendait bien quand même, voilà, mais on n'était pas du tout dans la même onde, quoi. Moi, j'ai appris, je me suis trouvé là-dedans. Je me suis trouvé dans ce plaisir de faire, de travailler, à faire des décors, de travailler à comédien. Mais au départ, pour moi, c'était pas le... Je voulais pas obligatoirement être comédien. J'avais été viré du lycée, j'étais complètement perdu. J'avais trouvé un truc, quoi. Un truc, c'était le théâtre, c'était ce truc-là, quoi. Et donc, le moment fatidique de construire sa compagnie, ça, pour moi, c'était, il fallait trouver un lieu. Donc, en pensant à ce passé, on a communiqué avec tous les éducateurs qu'on trouvait. Alors, on ne connaissait pas ce monde, hein, des éducateurs de rue, des éducateurs de centres d'hébergement, réinsertion sociale... tout ce qui existait, en se disant peut-être qu'on peut échanger le savoir-faire, pardon, moi je peux échanger donc le savoir-faire que j'ai eu pendant 10 ans à faire du théâtre, en le transmettant à d'autres, cette discipline, et une équipe, seule une, on a envoyé 2000 courriers, je crois, un truc énorme, et une équipe a répondu, c'était l'équipe d'Emmaüs, d'un centre d'hébergement et réinsertion sociale, pas communauté, hein, pas des trucs... son hébergement en réinsertion sociale, Emmaüs. Voilà. C'était dirigé par un prêtre ouvrier, défroqué, communiste. Défroqué parce qu'amoureux, tombé amoureux, et donc obligé de démissionner. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais un truc comme ça. C'était des discussions très intéressantes où j'ai appris que Jésus. Parce que je posais des questions. Moi, l'histoire m'a toujours passionné, toutes les histoires, y compris l'histoire de la religion, bien entendu. Et que je disais, mais comment ça se fait que Che Guevara, Lénine, Durruti, enfin tout petit, qui vous voulez, Louise Michel, elles sont instruits, et ils sont suivis par les gens, parce que quand même ils sont instruits, ça parle aux gens, et comment Jésus, ce pauvre gars qui est né chez des pauvres dans une étable, était suivi. Mais il dit, Jésus était fils d'architecte, pas d'architecte, de charpentier, mais charpentier, c'est un architecte à l'époque, c'est pas n'importe qui. Ah d'accord, voilà, on avait une discussion intéressante de ce genre-là, donc c'était pas mal. Et en échange d'avoir le lieu, le lieu c'était 150 mètres carrés en sous-sol, avec un plafond bas, bon, voilà. Et qu'on a aménagé, on devait travailler avec les résidents de cette centre d'hébergement de réinsertion sociale, 40 mecs, hein, parce qu'on c'est pas mix, hein, ce genre d'endroit. Hein, déjà t'es dans la misère, mais en plus il faut avoir des gonzesses avec toi, non, t'es entre mecs. Et des fois il y en avait qui étaient en dortoir, il y en avait qui étaient par chambre de deux. Et même Rosebif, le flageolet, le mec, c'était drôle. Pour l'anecdote, parce qu'il faut bien rire dans ces situations-là, mais c'était pas si rigolo que ça parce que c'était les premiers séropositifs, 84. La nouvelle pauvreté, la grande montée du chômage et la trahison de la gauche, du Parti Socialiste. Sur lequel moi personnellement je n'avais aucune illusion, étant fils de PCF, je connaissais un peu la trajectoire de Mitterrand. Mais bon, bref.
Je peux ?
Oui.
Parce que je trouve que tu oublies un truc et que ça moi j'aime bien en fait, parce que ça fait plusieurs fois moi que j'entends qui raconte l'histoire de Jolimum. Et quand tu dis que justement toi tu as rencontré le théâtre et la discipline, Il y a des fois où tu dis que toi, tu as eu cette chance-là et que tu as des potes qui n'ont pas eu cette chance-là. Et que c'est aussi pour ça que, justement, vous êtes allé vers ce public-là au départ, aussi, pour voilà, rencontrer des gens et peut-être leur donner la chance de rencontrer le théâtre.
Parce que mes copains d'enfance de la Porte Brancion, y en avait pas mal qui étaient morts. À 20 ans, ou moins même des fois, suicide, toxico, etc., etc., etc.
Et donc ça, c'est dans le collectif de création de base, c'est-à-dire il y a toi...
Non, c'était pas la troupe, ça, c'était l'échange.
D'accord.
Au départ. Mmh. Au départ, il y avait ceux qui me suivaient en tant que jeune homme qui venait de la cartoucherie, comédien déjà un peu professionnel, quoi. Même, déjà, ayant été professionnel. Et qui se disaient, ouais, avec lui, on va réussir des choses, je donnais confiance, sûrement. Et ça, c'était le groupe. On était 6, 5, 6... Et il y avait les gars du centre d'hébergement. Mais à bout d'un moment, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau, du jeu scénique, au niveau du travail scénique, ils n'étaient pas si mal que ça. Et que la à part qu'ils étaient quand même très problématiques. Mais comme un éducateur qui est toujours membre du conseil d'administration de notre compagnie, puisqu'on est en association, des animateurs particulièrement s'est mis avec nous et que ça roulait, on s'est dit, on va travailler ensemble. Pourquoi faire le groupe des petits pros qui, tout bien, n'étaient pas payés, on n'arrivait pas à faire assez de cachets, on jouait 3 fois par an, 4 fois, et pourquoi les autres, ils sont plus amateurs que nous parce qu'ils ont des difficultés. On s'est dit, allez, faisons un truc. Et on a eu le courage ou la folie de monter la mère de Bertolt Brecht. La mère de Bertolt Brecht, pour moi, fils de communiste, comme je vous l'ai dit, du PCF, fils de Stal, quoi, comme on dit, mais qui était super libertaire à sa façon, qui me dit, on s'est mis à raconter l'histoire de la révolution bolchevique, qui est racontée par Brecht. Hein. C'est une épopée de 3 heures. Et on a commencé à travailler avec toute l'équipe qu'on avait, on était nombreux, donc on pouvait. Il y avait des moments passionnants, je m'étendre là-dessus longtemps. C'est drôle parce que c'était pas obligatoirement les comédiens qui sont toujours un peu de catégorie sociale instruite. Parce que bourgeois, c'est pas vrai, petit bourgeois, si on veut, je sais pas comment on dit, comment classifier ça.
Avec un certain capital culturel.
Voilà, avec un capital culturel. Mais c'est pas eux obligatoirement qui pensaient que les ouvriers, ça crachait par terre et c'était vulgaire. Comment dire, expliquer que mais non, un militant révolutionnaire, en plus, il n'est pas comme ça. Donc il y avait de l'apprentissage, de la communication, c'était très très intéressant. Enfin, et on a réussi à monter la pièce. Alors on a monté la pièce et on a participé à un festival du théâtre amateur, au grand dam de mon metteur en scène du théâtre de l'Épée de Bois, qui lui, j'avais considéré que j'étais amateur, puisque je travaillais avec lui pendant 10 ans. Et on a remporté le premier prix au festival de la création amateur de Gennevilliers.
Donc le collectif s'est créé, compagnie Jolimont.
Peu à peu.
Peu à peu, au cours de
plusieurs aventures, de plusieurs étapes. Tu veux, donc on a été invité à Gennevilliers, on a travaillé, on a rencontré pour la première fois les jeunes des quartiers.
Ouais.
Gennevilliers. Parce qu'avant, moi, la cartoucherie, pas même Porte-Brancion,
Oui, c'était plutôt des gens de Paris qui venaient.
Ouais, enfin, Porte-Brancion, c'était quand même un peu déjà un peu chaud. Okay. C'était pas du tout la même chose, c'était pas le même public. Et donc, on a fait cette étape-là qui a été très intéressante, qui nous a formés aussi. Et c'est l'époque, on venait de découvrir la musique. Un jour, j'ai reçu un accordéon que j'avais offert, mais en fait, la personne à qui j'avais offert l'accordéon était en colère après moi, elle me l'a rendu, elle me l'a mis dans les mains, je suis parti dans le métro avec l'accordéon pour aller répéter. Je travaillais sur un spectacle sur les camps de concentration. Et j'avais cet accordéon dans les mains, mais je m'emmerdais, j'attendais le métro, je sors l'accordéon, je fais un accord mineur, pof, il y a surtout une pièce dans ma boîte à accordéon, là je n'ai pas encore joué. Super, bon bref, mais j'arrive à la répète. J'ai dû faire un accord mineur, je retrouve l'accord mineur, je fais un autre accord mineur, et comme c'était le départ des déportés dans un camp de concentration, en fait j'ai réussi à faire Parce que théâtre pauvre, hein, pas de décor, rien. Voilà. J'ai aussi fait un truc comme un truc comme ça. Et j'avais le train. Et ils étaient dans le train, ils n'avaient plus qu'à être dans le train. C'est-à-dire qu'ils vont dans un camp de travail avec des jardins. Il paraît qu'il y a des jardins, des petits bungalows pour les enfants. Voilà, on mentait aux gens aussi quand ils partaient en camp. Et donc, la musique est rentrée comme ça, en fait, dans notre travail artistique. En fait, comme décor, avant tout comme décor, comme... Et elle est restée toujours comme décor. C'est pour ça qu'on a souvent travaillé avec minimum de décor. C'est plutôt des lieux scéniques qu'on transforme à chaque fois, quand même. Ça peut être pyramidal, ça peut être... ça peut être...
Et comment... je me permets de continuer la conversation.
Bien sûr,
comment vous en êtes venu à trouver ce lieu
Lequel, celui-là?
Celui-là.
Il voilà, y a eu des aujourd'hui. Étapes, il y a eu beaucoup d'étapes. On a trouvé ce lieu... Alors là, c'est plus...
ça va être encore long. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a les JO, il y a tout ça. Il y a le moment où ils font de la musique dans la rue, quand même. Ça, c'est quand même justement un moment de Gennevilliers, tout ça.
Bah, quand on s'en bat de Gennevilliers, quand on s'en bat de Gennevilliers, on se dit, bon, on va dans la rue. Mais c'est vrai que la rue a été très importante. Alors, par la rue, on a Emmaüs, la rue, la banlieue. Emmaüs, la banlieue, la rue. À partir de là, les luttes. Les luttes des sans-logis, les luttes du droit au logement, les luttes des intermittents.
Donc là, vous veniez faire des pièces de théâtre ou
Non, on venait chanter, là, déjà.
On venait chanter.
Alors, au début, on chantait des belles chansons de Léo Ferré, Jean Ferrat. Au début, on faisait des reprises. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on a écrit nos chansons. La première chanson qu'on a écrite, c'était le chant des intermittents pendant l'occupation du théâtre de l'Odéon en 90.
Ah oui.
Voilà. On peut écrire aussi. Et les choses viennent petit à petit. Et donc la lutte est très activiste. Et de plus en plus activiste et de plus en plus entourée de gens.
Ouais.
De plus entourée de camarades, quoi. Filles, hommes. Voilà. Et donc assez capable d'emmener dans les trentaine, quarantaine de personnes avec nous pour ceci ou pour cela. Avec les autres aussi, mais quand il y a une 30-40 personnes qui se connaissent bien, c'est pas pareil dans un groupe de 200. Et quand tu es tout seul, hein, c'est pas du tout le même rapport.
Là, vous mêliez déjà art de rue, théâtre, musique. Chanson, musique,
voilà,
tout ça
et activisme. Et donc là, la grande lutte, la grande grève de 2003 a eu lieu. La grande grève de 2003 est intermittente. Il y a eu en même temps la lutte des retraites. Hein, contre la réforme des retraites de 2003 qui a été perdante et la lutte des intermittents qui a été très radicale et très perdante. Mais par contre, on a été très radicaux. C'est là où Avignon a été arrêté. Beaucoup de festivals pas complètement arrêtés, mais bien agités. Et nous avions aussi le sens de la mise en scène dans nos actions. Une douzaine de drapeaux qui courent, fabriqués, voilà, des choses. On avait un sens de la mise en scène dans ce que nous faisions, et nous étions très médiatisés.
Médiatisés dans les milieux militants
Non, même Libé, tout ça. Non, parce que les photos. Ouais. Les médias cherchent la photo, qu'est-ce qui peut inspirer l'idée.
Vous étiez déjà en costume.
Pas obligatoirement, on était pas obligatoirement, mais on avait des drapeaux, on savait grimper sur des trucs.
Il me dit regarde parce qu'on est au théâtre de la Belle Étoile et qu'il y a des photos autour de nous.
Voilà, tu vois la photo là-bas. Ouais, donc voilà, on proposait des images, et donc les gens petit à petit, c'était marqué à la compagnie Joli Baume, machin.
Il y avait déjà un nom à cette époque alors qui a été posé.
Oui, le nom il se faisait par. En fait, il s'est fait médiatiquement. Et où il s'est fait le plus énorme, c'était drôle, c'était avant 2003 même. Il nous est arrivé une anecdote assez amusante, c'est que justement la mer, on l'a repris, on l'a monté en 89 avec les gars d'Emmaüs. Et on l'a repris en 97 pour les 80 ans de la révolution bolchevique. Et donc là. Il se fait qu'à Libé, il y a grève. Enfin, il y a un mouvement social à Libé, et une journaliste est en colère, Et puis elle se dit, tiens, je vais voir ce truc-là. Et elle tombe amoureuse de notre travail en mettant qu'elle est jolie dans l'une des classes, mais avec un article sur une page entière de Libé, avec la première page aussi. Et là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, c'était plus possible de raccrocher, parce que quand t'as un article dans Libé comme ça...
C'était en quelle année, ça ?
97. 97, donc c'est avant 2003. Et alors, à plus de 97 à 2003, ça n'a fait que monter. Et en 2003, la mairie de Saint-Denis... oui, 2003, la mairie de Paris décide qu'il va y avoir les Jeux Olympiques.
En 2008.
Donc, on était dans un lieu où on était bien. On n'avait pas de théâtre, mais on avait un lieu où on avait notre matos, notre décor, nos instruments, de quoi répéter. C'était pas énorme, c'était bien. Et bah, ils ont décidé de virer tous les gens qui étaient au pont Cardinet, dans le 17e.
Des bâtiments SNCF qui étaient utilisés avec des baux précaires.
Voilà. Okay. Et donc là, on a dit, au secours, qui c'est qui peut nous aider? Et la mairie de Saint-Denis a répondu. La mairie communiste de Saint-Denis, elle nous a dit, voilà, on a un lieu en friche.
En fait, ici, il faut imaginer que dans les années... 90. En fait, les années 2000, c'est le moment où la plaine Saint-Denis va commencer à se reconstruire. En fait, la plaine Saint-Denis, c'est un gros pôle industriel, vraiment dans la première moitié du XXe siècle, fin 19e et première moitié du XXe siècle. Et après, grosse désindustrialisation. Et donc, dans les années 90, vous imaginez, ici, il y a des usines désaffectées, il y a des terrains en friche. Il y a, en fait, à la place de l'immeuble qui est en face du théâtre, il y avait en fait une voie ferrée. Grosse voie ferrée de triage. Ici, il y avait 15 km de voie ferrée pour relier toutes les usines au réseau SNCF national. Et donc, la rue Saint-Just, c'était une impasse qui n'avait même pas vraiment de nom. C'est le 120. Ici, c'est le 120, ici, pour les jeunes du quartier.
Oui, c'est
parce que c'est au niveau du 120, voilà, de l'avenue Wilson. Et donc, cette impasse, elle arrive sur le théâtre et le square d'à côté. Et donc, dans les années, tu vois, début 2000... en fait, il y a l'immeuble qui est en train de se construire, mais la salle, elle est dans le même état que le quartier, quoi. C'est-à-dire que délabré, quoi.
Oui, elle est délabrée. Voilà. Et nous, on a dit, oh oui, nous, vous êtes capables. On a dit, oh oui, on est capables, pas de problème. On avait des chapiteaux aussi. Enfin, on avait un chapiteau et on faisait des festivals et on avait plusieurs chapiteaux. Donc, on avait un peu l'habitude de gérer des endroits, même, oui. Et puis et du public difficile, on avait quand même eu quelques expériences. Et on avait ce lieu avec la complicité de la municipalité, super.
D'accord, ça vous servait à la fois du coup de salle de répétition, de salle de spectacle.
Oui, d'accueil de spectacle, de répétition.
De bureau, de stockage.
Voilà,
de
tout.
Ouais. Ouais, ce que rêve n'importe quel troupe de théâtre, peut-être de musique aussi, enfin, de pas être un peu aussi grand. Mais troupe de théâtre, oui, on a vécu un rêve pendant 19 ans et demi. Voilà, on n'est pas non plus catastrophé. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont c'est fait, c'est brutal. On est viré d'ici, c'est totalement brutal.
Peut-être, est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs un peu comment c'est déroulé cette expulsion, en fait. Parce que là, on vient, tout est dans des malles, dans des cartons... Le lieu est...
En fait, peut-être juste quand même expliquer quand même... Enfin, excuse-moi, mais juste... Parce qu'en fait, expliquer un peu ce qu'on faisait, parce qu'on faisait pas juste du théâtre, en fait. La Belle Étoile, c'est quand même un lieu où on a créé beaucoup de liens quand même avec les habitants. C'est un lieu où ils savent que s'il y a une réunion d'habitants, ou s'il y a un problème, s'il y a une AG, par exemple, des mamans, par exemple, là, en fait, il y a plein de problèmes en ce moment avec des gamins qui s'entretuent. Typiquement, ça, c'est à la Belle Étoile, en fait, que les gens ils se seraient réunis pour discuter, tu vois. C'est un lieu où ils savent que s'il y a besoin, à un moment donné, de se retrouver, ils savent qu'ils peuvent venir.
Ouais.
Et où on accueillait des débats, voilà, des spectacles, des choses.
Au hasard, massacre au Pérou, Palestine, etc. Ouais.
Des choses qui sont en dehors même de vos activités.
C'est pas en dehors, parce que c'est ce qu'on chante.
C'est ça. C'est un côté militant, quoi.
Oui, c'est un lieu de vie aussi, un lieu de lutte dans le quartier.
C'est ça.
C'est ce qu'on chante, c'est ce qu'on fait. On est artiste et on est...
C'est important de le...
C'est important parce que c'est ce qui nous reproche.
On est artiste et on est combattant. Et il nous a fait le coup, bon, il nous l'a dit, hein, devant ses témoins, là, parce qu'il a essayé de nous faire, hein, le maire, quand je dis il, le maire, il a essayé de nous faire le sorte de, je sais pas, d'examen, ils appellent ça les appels à projet, Flo s'est embêté à remplir 50 pages de projet, projet de dire soit là ce qu'on fait, ce qu'on va faire, bon, on va essayer de faire mieux, en gros, hein. Si on a de l'argent, d'accord. Et il nous a dit, parce que c'est en fait aussi ce que j'ai dit oralement, puisque j'étais face à lui, là, et c'est sept acolytes, c'est-à-dire le directeur des affaires culturelles, le sous-directeur des affaires culturelles, madame de la DRAC,
voilà,
maire adjoint, je ne sais quoi, et je ne sais qui. J'ai dit, ben voilà, notre projet, il dit, ben, votre projet, ben, mon projet, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis 19 ans, en mieux, parce que vous voulez donner de l'argent pour qu'on fasse encore mieux. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, ben, écoutez, comment voulez-vous que ça se passe? De toute manière, le problème entre nous, le cœur du problème...
Le cœur du sujet.
Le cœur du sujet, entre nous, est politique.
Et pour vous, c'est le seul grief que l'armée...
Ah ben... Ah oui, oui, il n'y a jamais eu de problème ici. Bien au contraire, bien au contraire. Et oui, c'est le seul sujet de grief entre nous. Le cœur du sujet est prêt. Il a rajouté un truc, parce que ça lui passait à l'esprit à ce moment-là, et on vient d'organiser avec...
Parole d'honneur.
Un rassemblement de soutien à Gaza. Et en plus, en organisant un soutien à Gaza, vous êtes carrément hors les clous. Mmh. Voilà. Mmh. Voilà, c'est tout.
En fait, si tu veux, pour lui, un lieu de spectacle, il nous a dit, c'est ni un centre de conférence, ni un centre militant, ni un centre de propagande. C'est en fait, pour les conférences, il y a des lieux qui sont dédiés, c'est la Bourse du Travail.
Ouais. Et même le MRAP a été, ils lui ont refusé la Bourse du Travail.
Mais du coup, ça date de quand, cette menace d'expulsion?
En fait, si tu veux, l'appel à projet, il est sorti en juillet. Mmh. Donc après, nous, on a répondu. Mmh. Tu vois, mais en gros, la réponse officiel, c'est le 23 novembre.
Oui, qu'ils ont pris quelqu'un d'autre, parce que nous, on est les plus mauvais remplisseurs de papier, de projet.
C'est très rapide, quoi, du coup. Peu de temps pour pouvoir s'organiser.
C'est brutal.
Ça fait partie, je pense, de leur méthode aussi.
Voilà. C'est. On a fait ce qu'on a pu, on a organisé un grand événement. Il y a plus de 4 heures de prise de parole avec des gens aussi divers que. François Ruffin, Nathalie Arthaud, Pierre Imbert du Monde Diplo, Fred Lordon,
Babar Dudal,
enfin tous nos amis politiques qu'on a rencontrés pendant toutes ces années sont venus nous soutenir, et des troupes, des groupes de musique, quand tu as le nom des groupes, je ne me souviens pas.
Il y avait Iracius. Après, il y avait le Brackball.
Voilà.
C'était l'événement Hypernova.
Ouais, c'est ça.
La chanson française.
Que je notais, il y avait tout. Il y avait conférences, théâtre, musique. C'était riche pendant 3 jours.
Et voilà. Et on n'avait pas autre chose à faire que d'attaquer la mairie. Hein. Enfin, leur politique, leur conception des choses.
Et qu'est-ce qu'on est ressorti? Comment ça s'est déroulé, du coup, ces 3 jours?
Qu'ils nous détestent encore plus, on savait. Ouais. On le savait, on n'était pas dans une posture, on n'a jamais été dans une posture de vouloir accepter la façon dont ils se comportaient avec nous. Donc on a perdu, mais on a perdu sans jamais avoir essayé de leur plaire.
Et peut-être est-ce qu'il y a une suite
pour il y aura une suite.
Il y aura une suite.
Là, pour le moment, on a trouvé un endroit pour une sorte d'exil. Je pense que j'ai toujours fait la comparaison prétentieuse comme Victor Hugo à Guernsey ou à Jersey. Voilà, un exil. Là, vraiment, on va être en exil, on pourra même être dans la clandestinité. C'est un endroit particulier dont on ne va pas vous parler.
Donc là, le môme va se déployer autre part.
Bon, on rentrera dans la rue, certainement, pas mal. Et puis, si possible, on ira jouer partout où on pourra. En sachant qu'on a une réputation quand même, là, on a augmenté notre réputation de casse-couille. Hein.
Oui. On attend nos camarades et on commence. Vous pouvez vous installer.
Ceux qui sont derrière, il y a de la place devant si vous avez envie. Il y a quelques sièges de...
Un siège de pavé.
Exister que grâce à vous, on ne reçoit pas d'argent de l'État bourgeois, qu'il soit de gauche ou de droite, jusqu'à nouvel an.
C'est bien ce que je disais, merci.
Voilà.
C'était plus court, quoi.
D'autre part, s'il y a des gens qui sont professionnels du spectacle, nous rappelons que demain, il y a une assemblée générale, donc c'est ce qu'on appelle les intermittents. Alors que notre métier, c'est pas d'être intermittent, nous sommes professionnels du spectacle, il se fait que nous travaillons par intermittence.
Non, nous sommes payés par intermittence.
Oui.
Nuance.
Voilà.
Et si vous avez envie de nous revoir, on a un cahier sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées.
Oui.
Voilà. Et la caisse, elle est là.
Pour les spectateurs, la rue s'en fait peur, il n'y a pas de projecteur. C'est que la lumière n'est pas prisonnière, on est en plein air. Quand on va finir, ils vont repartir, peut-être applaudir. Vous êtes attendris, on vous a séduit, c'est toujours sa prime.
Entre nous, franchement, tant que dans le monde, 20% de la population continuera à posséder 86% des richesses, franchement, moi, je ne vois strictement aucune raison de lâcher ce drapeau rouge.
Quand il faut lutter, on aime à chanter pour se réchauffer. La rue, c'est pratique, c'est très politique, faut faire gaffe aux flics. Manifestation ou insurrection, encore des chansons. Quand on se rassemble, les oppresseurs tremblent parce qu'on est ensemble.
Vive la lutte de classe. 1, 2, 3.
Vive la lutte de classe.
C'est pas mal.
On va refaire cette moyenne. Alors, à 3, 1, 2, 3. Vive la lutte de classe.
C'est mieux,
ça peut être mieux.
Mais c'est de partout que les amoureux se sentent le mieux. Ils viennent par ici, nous on est ravis qu'ils nous aient choisis. Cette chanson-là, c'est pour ces deux-là qu'on la chantera. Car les troubadours chanteront toujours la vie et l'amour. Chanter dans la rue pour des inconnus qu'on n'a jamais vus. Regarder leurs yeux et faire de son mieux pour les rendre heureux. Parfois les faire rire ou seulement sourire, même sans rien dire. C'est notre pari, celui de la vie, celle qu'on a choisie.
15 euros. Merci. Merci.
Première session d'écoute des productions de la compagnie Joli Môme, c'était le morceau « Sans la nommer », reprise de Georges Moustaki, que l'on peut retrouver sur leur album « Bastaya ». Et maintenant, écoutons le titre « Sharon » de l'album « Légitime colère ».
Qui résonne, page noire de l'histoire de France.
y a des petites idées qui dansent, ça y est, nous voilà à Charonne. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On s'y arrête quelquefois. Vu des boulets, Charonne, Voltaire, en 62, c'était la guerre. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Quand j'entends parler de Charonne, j'entends des cris, j'entends des voix, le fascisme ne passera pas.
Le fascisme ne passera pas.
Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Un jour de manif à Paris, un jeudi noir, il faisait froid, les journaux titraient Algérie. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? La nuit tombée, ils étaient là. La manif était interdite pendant la guerre, pas de politique. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Pour des militants ouvriers, que ce soit ici ou là-bas, contre la guerre, faut résister. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On était loin de la bavure. La police avait tous les droits, carte blanche de la préfecture. La police a cogné, jeté dans la bouche ouverte à la ville. Massacré, piétiné, frappé, écrasé sous le poids des grilles. Charonne, c'est un métro qui saigne. Les cris, les voix hurlent encore. Les larmes des lacrymogènes, trois filles et six garçons sont morts. Charonne, c'est un métro, c'est qui? Quand j'entends parler de Charonne, c'est la Palestine qui résonne. Et l'Algérie, celle d'aujourd'hui.
La compagnie, de sa création, de son évolution, c'est un peu quel est votre fonctionnement interne?
C'est là où on est un peu libertaire. Un peu parce qu'on est quand même assez communiste. Enfin, on est communiste libertaire, si vous voulez. Voilà.
Parce que là, t'es sur Radio Libertaire quand même. Pas de cannerie.
Hein. Ouais. On est en autogestion, mais on est verticaux quand même. C'est compliqué, on est verticaux, c'est-à-dire
En fait, il y a plusieurs hiérarchies, c'est-à-dire des hiérarchies de compétences. Enfin, tu vois. Genre dans la technique,
Voilà.
T'as quand même... Après, t'apprends, en fait. Moi, j'ai appris plein de trucs, justement, en côtoyant les autres qui savaient, et tout, et petit à petit. Et puis, il y a aussi un peu une hiérarchie d'ancienneté, quoi. Ça fait 30 ans que t'es là, et que l'autre, il débarque, faut comprendre comment ça fonctionne, tu vois, justement, un peu tous les rouages.
L'histoire
et tout ça, ça me donne...
On s'est toujours basé aussi, on a toujours essayé de fidéliser les camarades qui sont avec nous. Alors, il y en a qui fidélisent pendant 10 ans, il y en a qui fidélisent pendant 2 mois, mais il y en a pas mal qui fidélisent pendant pas mal de temps. Et ce qui permet qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un cheminement de pensée. Parce qu'il y a eu des cheminements de pensée, c'est pas évident, par exemple, je donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, c'était ça c'est du milieu des années 90. Remettre en question l'humanitaire, qui était très en vogue à l'époque. Hein, c'était à contre-courant, et nous sommes souvent à contre-courant. Très souvent, et même à contre-courant de nos camarades, des fois, quand ils sont trop dans le courant de pensée. On fait attention à ne pas rentrer dans la dernière mode de pensée en particulier. Et parce qu'on a une histoire, et l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme est basique chez nous. L'internationalisme. Alors dire prolétarien, ça fait un peu passé comme mot, mais je sais pas, l'international des travailleurs, c'est la base, on est plus proche d'un gars qui se bat au Kerala contre le nouveau dictateur indien, enfin, soi-disant démocrate, que d'un bourgeois parisien.
Comment se prend les décisions, par exemple, de soutien à telle ou telle cause, ou alors les sujets de vos spectacles, comment ça se décide entre vous?
Eh bien, ça se propose... Les anciens souvent proposent, évidemment.
Il n'y a pas d'assemblée, par exemple, pour décider...
Oui, il y a des assemblées pour décider. Les assemblées, tu sais, on est 12, hein. On ne fait pas les assemblées à 20 ou à 30 ou à 50. Hein.
Oui, mais à 12.
Il peut y avoir des divergences sur certains aspects, oui. Sur des chansons, par exemple. Non, pas cette chanson-là, moi je l'aime pas. Bon, merde. On est plusieurs à l'aimer, c'est emmerdant. Mais bon, si on ne peut pas faire ça. Hein. Et puis il y a des gens à qui on peut moins imposer qu'à d'autres. Un nouveau qui dit moi je l'aime pas, on lui fait bah si ça te plaît pas, tu t'en vas, quoi. Si je te dis. Si c'est quelqu'un qui est là depuis 30 ans, c'est plus compliqué.
Ouais.
C'est plus compliqué, faut...
Non mais c'était aussi. Là on est à Radio Libertaire, du coup il y a des gens qui sont mandatés pour faire la trésorerie, s'occuper du bâtiment, machin. Moi je suis à la CNT, ça fonctionne de la même manière. Donc du coup c'est est-ce que vous en interne, vous avez cette.
Mandaté, c'est un mandat, c'est effectif.
Des mandats tournants, ou bien il y a des gens qui, de fait, sont un peu
référent,
spécialisés ou référents, voilà, de...
Eh bien, c'est là où c'est plus compliqué, parce que, imagine une famille, on est tous les jours ensemble, hein. On n'est pas ensemble pour se réunir pour le syndicat, on n'est pas ensemble pendant 3 mois, pendant 6 mois, pour faire un projet de 2 ans. On est toujours ensemble et c'est plus comme une famille, tu sais. C'est-à-dire que...
Bon, là, je te rétorquerais que, bon, un patron, il pourrait dire ça.
Absolument.
Il pourrait dire, on est comme une famille,
absolument.
On n'est que 6 à faire ici, du
absolument.
Coup, c'est normal qu'un tel fasse le ménage et un tel gagne.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Puis la famille, ça n'a pas que de bon côté.
Oui, voilà, c'est ça.
Je suis totalement d'accord avec toi. Bon... le patron, il est rarement à salaire égal, c'est là où on se ressemblerait plus. Tu vois, à salaire totalement égal, hein. C'est-à-dire on compte pas les heures d'un.
Vous êtes à salaire égal dans le.
Ouais. C'est plus dur, je vais te dire, quand t'as mon âge et quand t'as 20 ans. C'est pas la même chose. Ça représente pas la même chose.
Puis en fait, tu vois, il y a des réunions formelles, puis il y a tout ce qui est réunion informelle, en fait.
Genre là ce soir.
Par exemple, le café, le matin. Alors, il y a plein de gens qui viennent nous voir le matin, des fois, ils disent « Ah oui, vous commencez par la pause café, vous, d'accord, ok. » Tu vois, normalement, c'est la pause de 10 heures, quoi. Enfin, bon, bah, nous, on commence à 11 heures, mais du coup, on commence par le café. Mais parce que c'est le moment où, en fait, on se retrouve, on discute de ce qu'on a entendu aux infos, de un peu politique, de trucs, il y a des idées qui arrivent ou quoi. Et ça, c'est plein, tu vois, c'est plein de moments où, en fait, on discute, quoi, mais de manière informelle, pas... Une réunion avec un ordre du jour, mais où il y a aussi des idées qui arrivent, que ce soit des idées de spectacle, de chansons ou autres, ou de réflexions, tu vois, là-dessus, quoi. Ça, c'est des moments aussi importants, en fait, où on n'a pas forcément l'impression de travailler, mais en fait...
Mais dans un groupe de musique, est-ce que les choses ne se passent pas de la même façon? Tu vois, il y a celui qui écrit les paroles le plus souvent, celui qui chante, celui qui plaît le plus au public dans le groupe. Il y a tout un tas de choses.
Ça me fait penser au film sur Lip, tu sais, la lutte, ouais, voilà. Donc c'était une grosse entreprise qui fabriquait des montres et qui ont basculé, on va dire, enfin vers l'autogestion. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte quand ils ont mis en autogestion, c'est que quand même, c'était plus pratique que le gars qui est comptable, il soit à la compta, et que...
Voilà, du coup, c'était... Pareil.
Voilà, donc c'est... Voilà, non, c'était pour...
Ouais, 1336, pareil. Hein, c'est ce qui est la grève de 1336 jours du thé, là, qu'on a ici, là.
Les Fralib.
Les Fralib, pareil. Ouais. Pareil. Ouais. Oui, il y a un moment donné.
Puis il y a des tempéraments différents aussi.
Oui, il y a des gens qui aiment.
Tu vois, justement, les Fralib, moi je me rappelle, on discutait parce qu'on allait jouer chez eux, en fait, il y a quelques temps. Et justement, ils disaient, bah voilà, il y a des gens que ça faisait flipper, en fait, de se retrouver justement en autogestion. Ouais. Et que lui, il voulait qu'on lui dise quoi faire, quoi. Ouais. Parce que même s'il faisait le truc depuis 10 ans, peut-être. Il avait besoin qu'on dise, bah tiens, tu fais tant de ça, tu fais tant de ça. Et en fait, il voulait pas se prendre la tête à décider des trucs, quoi. Oui. Il avait besoin quand même d'un petit chef d'atelier.
C'est ça aussi l'autogestion, quoi. C'est que on est désemparés.
C'est ça, c'est accepter aussi que, en fait, il y a des gens qui
disent, bah,
il faut qu'on leur dise quoi faire.
Et on trouve ça chez les artistes aussi, hein, beaucoup. Des gens qui veulent jouer, c'est tout.
Ouais.
Ils veulent jouer, c'est tout. Bon, ils veulent bien faire la vaisselle, les petits trucs, mais pas se prendre la tête. Et donc, bah évidemment, l'autorité de compétence, ça devient de plus en plus de compétence, il faut bien reconnaître. Parce que celui qui ne veut pas prendre de responsabilité, bon, il a ses qualités sur scène, ou elle a ses qualités sur scène, il y a des choses magnifiques. Hein. Mais c'est sûr qu'au niveau rapport d'importance de... Je ne sais pas comment dire, hein, j'allais dire de domination, c'est un peu con. Mais au bout d'un moment, si tu prends jamais de responsabilité, tu te retrouves à recevoir des ordres en permanence. Oui, hein.
Ah, peut-être dans votre processus créatif au niveau de la musique, ça peut être un bon exemple, peut-être voilà, d'étayer un peu ses propos, quoi, dans le sens comment vous organisez pour écrire un morceau, ou comment ça se passe.
Il y a ceux qui ont l'initiative de proposer une mélodie, des accords... Et il y a ceux qui sont contents de les faire et qui n'ont pas particulièrement la velléité de se battre pour ça. Parce que pareil, de la même façon qu'ils n'ont pas la velléité de se battre pour savoir où en sont les comptes.
Bah ouais, bah, je suis pas sûre que ce soit... Parce que par exemple moi, toi, au hasard, moi je peux prendre des responsabilités de faire plein de trucs. Par exemple en musique... Je suis très contente qu'on me dise quel accord jouer parce que moi je sais pas.
Tu vois, c'est pas mon truc, quoi. Pour le coup, tu vois. C'est pas obligatoirement lié.
Donc en fait, voilà.
C'est pas obligatoirement lié.
Et il y en a d'autres qui peuvent juste avoir envie qu'on leur dise quoi faire dans la vie quotidienne, mais qui par contre en musique, là, ça va être leur truc et qui vont proposer, bah tiens, est-ce que. Tiens, bah telle ligne de trompette ou telle ligne de je sais pas, de cuivre ou truc comme ça.
Donc c'est des idées ou des énergies qui se complètent, quoi. Il n'y a pas non plus tant d'attente. Après, c'est. Voilà, qui a une idée, qui se valide. Ouais.
Et oui, ce sont des constellations.
Ouais.
Ce sont des constellations. Et quand ça marche bien, quand ça roule bien, c'est que la constellation est comme il faut.
Et vous êtes combien d'ailleurs dans le...
Bah, on est une douzaine. Dire qu'on est combien, là, en ce moment, vu la situation, c'est difficile, hein. C'est difficile.
Peut-être au niveau salarié, tu m'entendais?
Ouais, salarié par joli mot, on est une douzaine. Salarié par joli mot, on est une douzaine. Voilà, ça arrive, mais en tant qu'intermittent. Et puis comme maintenant, on n'a plus de sub de conseil régional, parce qu'on s'est fait sucrer aussi la sub du conseil régional, et qu'on a plus de théâtre, tout le monde est obligé d'aller travailler ailleurs. Donc c'est plus compliqué. Hein. La situation, c'est pas la troupe permanente qu'on a connue. En ce moment, on va être quelques-uns en exil, à écrire des chansons, à essayer d'enregistrer, à faire des choses, et puis les autres nous rejoindront. Mais on se ressemble, on est dans une autre situation là. On est en train de passer à une autre étape.
Que vous faisiez aussi jouer des ateliers, type des chansons, fanfares, des choses comme ça.
C'est important.
Ça, c'était comment ça se liait, comment ça s'organisait, ou voilà, est-ce qu'il y avait des rôles différents qui se mettent en place.
C'est très important. On est en train d'essayer de créer le GIJM, groupe d'intervention de Jolie Baume, qui va être composé d'un pas mal d'amateurs et de troupes, de la troupe noyau quand même professionnelle, mais pour intervenir plus souvent dans la rue. Et en espérant que ça tienne en changeant de lieu, ce qui n'est pas gagné, parce qu'on va pas être au même endroit, donc les gens ils ont plus leurs mêmes habitudes, on va perdre des gens, peut-être en retrouver d'autres.
En fait, c'est un peu le même principe que ce qu'il raconte sur Emmaüs, tu vois, c'est-à-dire que c'est complètement différent des cours de théâtre qu'on peut avoir d'habitude. C'est vraiment, en fait, les comédiens musiciens de la troupe qui participent aux ateliers. D'ailleurs, c'est aussi l'école pour ceux qui débarquent dans la troupe pour apprendre un peu la technique Joli Baume.
Apprendre la technique, nous connaître, savoir s'ils sont bien avec nous.
Parce qu'en fait, t'as des copains qui sont amateurs depuis très longtemps, depuis 15 ans des fois même, et qui donc ont un super niveau, tu vois. Et donc, en fait, les nouveaux qui intègrent la troupe de Joli Baume, bah en fait, ils peuvent apprendre d'eux, parce que tu vois, il y a un échange, en fait.
C'est un bon moment de transmission, ouais, ça.
Ouais, c'est puis un moment aussi où ça nous permet, et là, on en aura plus besoin que d'habitude, de sortir de, comment on appelle ça, de ne pas scléroser entre nous. Parce qu'ici, on n'était pas sclérosé du tout. Porte ouverte sur le quartier, des gens qui passaient en permanence. C'est un beau lieu, quoi. Puis on a des initiatives qu'on prenait. Là, ça va être plus compliqué. On va se retrouver comme beaucoup de gens, hein. On ne va pas non plus pleurnicher. Il y a plein de gens qui sont dans la même situation, qui n'ont pas de lieu, qui... Voilà.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Nous venons d'entendre le morceau « C'est dans la rue que ça se passe » de l'album « Paroles de mutin ». Et maintenant, un dernier morceau de la compagnie Joli Môme qui se nomme « Sous le soleil » à retrouver sur l'album « À contre-courant ».
Sous le soleil, exactement, pas à côté, loin de chez nous. Sous le soleil, discrètement, des destinées dont on se fout. Petite île sous les tropiques, une colonie tricolore, un intérêt tout stratégique, pièce détachée des Comores. Bienvenue dans la République, le changement c'est l'avenir, plus de coutumes archaïques qui empêcheraient d'investir. Bientôt s'ouvrira le grand bal, et valseront les tractopelles, les villages du littoral laisseront place à des hôtels. Sous les étoiles du firmament, mer agitée ou pas du tout. Sous les étoiles, furtivement, des vies risquées dont on se fout. Petite île de privilèges dans un océan de détresse. Des canaux viennent en cortège à l'assaut de la forteresse. Qu'est-ce qui flotte près des côtes, loin de la Méditerranée, dans la mangrove à marée haute, encore des migrants noyés. Des gamins fixent l'horizon, abandonnés sur ce caillou. Leurs parents jetés dans l'avion, absurdité d'un monde fou. Mmh.
souffle des coups sous la tempête, furieusement monte des cris dont on se fout. Une petite île oubliée et rame la misère. Une tragédie annoncée chauffe, chauffe la poudrière. Dans les villas hautes perchées, où ceux qui n'ont rien n'entrent pas, bien à l'abri sécurisé, on craint tout ce qui vient d'en bas. Quand tournent les machettes ici, les pieds revoltent en Palestine. Dans nos cités couvre l'incendie, partout les petits se mutinent. Sous le soleil, exactement, pas à côté, à l'autre bout. Sous le soleil, ce grondement a résonné jusque chez nous. Cette petite île isolée, ce petit monde en miniature, maintenant vous le connaissez, Mayotte c'est sa signature.
Par rapport du coup un peu ce retour à la rue que vous allez vivre, non, vous avez une grosse expérience, j'ai l'impression, voilà, du spectacle de rue et
De chansons dans la rue, oui.
Qu'est-ce qui en ressort, je pense, dans le rapport au public, est-ce qu'il est différent qu'en salle, ou qu'est-ce que ça amène d'avoir cette connaissance du spectacle?
Voir le public, c'est beau.
Ouais.
Voir le public, c'est beau. Surprendre le public. On va retourner quand? Mercredi prochain, mercredi soir, sur le campement du Dalle,
ouais.
Rue Solferino, boulevard Saint-Germain. Ça sera encore particulier, c'est pas la rue,
c'est pas la rue
qu'on décide par nous-mêmes. Enfin, on a décidé par nous-mêmes d'y aller, bien sûr, mais c'est pas la rue où on intervient par nous-mêmes, par surprise.
Ouais,
on dit jamais quand on intervient quelque part dans la rue, on sait jamais ce qui pourrait arriver si des gens nous attendaient. Donc
on a quand même un drapeau rouge.
On a quand même un drapeau rouge.
Une plus grosse part d'improvisation, quoi, certainement.
Il y a une part d'improvisation, bien sûr, puisque la rue, tu ne peux pas être capable d'improviser avec ce qui se passe. Mais quand même, on travaille, il est cadré.
Parce qu'on a, il y a aussi pas. Enfin, moi, je sais plus, j'avais vu un truc, je crois, devant le mur des Fédérés. C'était comme un spectacle. Abouti, quand même.
C'était avec l'atelier chanson fanfare pour la scène, si je me souviens bien.
Ouais.
Mais c'était pas le Génie Montel, c'était l'atelier Jean Zomorfin, mais c'est abouti aussi, c'est travaillé aussi.
Oui, mais le résultat, c'était quand même quelque chose de...
Oui. Et puis il y a du monde, ça donne une impression joyeuse, enthousiasmante. L'objectif, c'est donner la pêche aux gens quand on travaille politiquement, de façon militante. C'est pas trop se prendre au sérieux non plus, parce que... on ne fait que du spectacle, c'est tout, ça s'arrête là, on ne fait pas la révolution, mais on peut donner des images, des allégories qui donnent envie de vivre des choses subversives. Oui.
Ça, vous êtes beaucoup intervenu pendant les manifestations.
Oui, aussi.
Alors, je ne sais pas si on peut séparer Aurillac, là, ce serait peut-être un entre-deux, ça reste dans la rue. En même temps,
Aurillac,
je ne sais pas ce qui serait plus intéressant de souligner, parce que peut-être les manifestations, là, on en parle un peu, ça peut être...
Oui, les manifestations, on est beaucoup intervenu dans les manifestations. En fait, on a arrêté d'intervenir dans les manifestations à l'époque, pratiquement, c'est où les gens sont mis au cortège de tête. On s'est dit, les gens sont actifs, on va pas faire semblant d'être actifs, puisque les gens sont actifs. On les rejoint dans le cortège de tête ou pas, mais c'est autre chose. À partir du moment où les gens sont acteurs, on n'a pas besoin de leur faire le numéro de ce qui est... quand on chantait, c'est dans la rue.
Il y a la fanfare invisible qui a pris
votre... ils ont pris notre place,
les cortèges de tête,
ils sont super,
ils étaient là.
Hein. Mais ils font du bruit avec que des cuivres, que des pieds.
Ils font dans les lacrymos, c'est vrai qu'avec les instruments.
Ils sont super, d'ailleurs on a une de nos comédiennes qui est une activiste de fanfare invisible.
Ils sont venus pour Hypernova aussi, c'était super chouette de les voir.
Bien sûr, ils sont super. Et nous on a dit, c'est bon, on va pas jouer, c'est bon. C'est bon, donc les manifs, pour le moment, peut-être des départs de manifs, on fera peut-être des choses comme ça, mais pour le moment c'est bon. Et,
pour les intermittents peut-être, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais,
on a fait un peu... On a ramené un peu les drapeaux.
Voilà.
Et quand il y avait l'occupation
L'occupation, on y est, mais on ne fait pas de spectacle. C'est ça dit, ce qui est rigolo.
On a prêté les drapeaux pour le 1er mai, ou je ne sais plus.
Oui, oui.
Ouais. vois, des trucs comme ça.
J'ai vu quand même, il y a un truc qui était, j'ai trouvé incroyable, c'est que vous étiez à Séoul, ou certains d'entre vous, à Séoul, un 1er mai, il y a, donc c'était en 2019. Et c'est quoi qui vous amène à aller aussi loin?
C'est dingue. Ça fait partie de nos contacts, je t'ai dit, on a côtoyé des révolutionnaires péruviens, des palestiniens, des basques, tout un tas de gens, on a côtoyé beaucoup de gens.
C'est la constellation, quoi.
De différentes tendances. Hein. Vraiment, ça va des Mao, si vous voulez, des Stal, quoi, hein, bien dur, pur et dur, comme on pourrait dire, aux libertaires, aux tanards. Donc on a un monde. Oui. Un monde de, et notre parti pris de base, ça a toujours été d'être comme, de ne pas tomber dans le piège du groupe Octobre qui s'est séparé. Le groupe Octobre, c'était un groupe qui était animé par Prévert, et qui intervenait dans les luttes entre les années 34 et 39, quoi. Et qui sont séparés parce que bah, la guerre d'Espagne, anarchistes, trotskistes, communistes, enfin, Stal, communistes orthodoxes, disons, parce que Stal, c'est pas juste pour beaucoup, léninistes, disons, voilà. Ils se sont séparés pour pas se taper dessus. Et une des bases, nous on avait cette leçon là, on va accepter tout le monde.
Ah ouais, ils sont séparés quand même. Une partie des communistes a trahi les anarchistes sur la révolution espagnole.
Oui, mais ils sont restés amis.
Remettre le couvert.
Ils sont restés amis après, tu sais, parce qu'après il y a eu le parti communiste qui a brillé avec la résistance, tu sais, il y a tout un tas de choses qui fait que les gens ils changent d'influence, ils se retrouvent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit.
Quand même, il y a...
Oui, je sais.
Il y avait des camps... Mais
attends, je pourrais te raconter des choses peut-être hors micro, mais qui sont...
Ouais, hors micro.
Hors micro, qui sont vraiment intéressantes. Mais sur toutes ces tendances...
Non, mais en tout cas, vous, voilà. C'est que Jolimôme a travaillé avec beaucoup de collectifs...
Très différents,
internationalistes.
Et voilà, et on a rencontré des internationalistes.
Qui, pour certains, étaient marxistes, qui, pour certains, étaient plus libertaires. Mmh. En tout cas, sur des luttes aussi décoloniales, on peut le dire, sur le soutien au peuple basque, au peuple palestinien. Mmh. Et ça, c'est
un acte. Et donc les Coréens, parce que je répondais à la question
sur la Corée.
La Corée sont des anti-impérialistes, et qui subissent l'impérialisme états-unien depuis...
Depuis
1945. Et eux, ils considèrent que la Corée n'est toujours pas libre. Contrairement à ce qu'on laisse entendre ici du côté occidental, la Corée du Sud, c'est la liberté, la démocratie, la Corée du Nord, c'est l'horreur. Eux, ils disent non, la Corée n'est pas libérée. Mais ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont communistes, sinon ils vont en prison. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont en prison régulièrement parmi eux. Mais ils sont très bien organisés. Ils sont très très bien organisés, comme je sais pas, comme des Coréens, comme des Asiatiques, je sais pas, mais ils débrouillent très bien. Et ils ont pu faire un festival pour le 1er mai 2019, je me souviens même plus de l'année.
Oui, ça.
2019. Et ils nous ont fait venir avec notre spectacle sur la Première Guerre mondiale, où ils ont pu découvrir, pour beaucoup d'entre eux, Rosa Luxembourg, parce que et ce que c'était que la Première Guerre mondiale en Europe, parce que c'est loin d'eux. Hein.
Comme nous, tu vois, que la guerre elle commence en 37 là-bas, les Japonais, tout ça.
Voilà, et tous ceux qui ont lutté contre la guerre, parce que le spectacle était orienté sur ceux qui ont lutté contre la guerre, pas seulement les mutineries de Craon, ok, d'accord, c'est bien, c'est chouette, il n'y a pas qu'à Craon, il y avait sur tous les fronts des mutineries. Et donc, ils ont fait venir notre spectacle, qui était un gros spectacle.
Ils ont fait tous les décors là-bas sur place.
Au centimètre près. Ils ont tout refait comme il fallait, avec les instruments et tout. On a joué ce spectacle-là. Et on a joué aussi dans la rue, à Séoul. Mmh. Et on a joué, pas que pour le 1er mai, on était joué dans la rue. et on a joué pour la manif du 1er mai, qu'on a passé avec eux.
Et ils traduisaient un petit peu entre chaque chanson.
Voilà ce que j'avais demandé, comment ça se jouait au niveau langue.
Ils distribuaient des papiers où ils avaient traduit les chansons, et puis il y avait une copine traductrice qui du coup traduisait un petit peu une présentation de chaque chanson.
Et pour leur grande joie, on a joué devant l'ambassade des États-Unis avec le drapeau rouge.
Une
scène importante avec beaucoup de public sur un escalier style, j'allais dire Odessa pour pas exagérer, mais un grand escalier large. Et ça, pour eux, c'était incroyable, parce qu'ils n'ont pas le droit d'arborer le drapeau rouge. Voilà. Et
Mais comme c'est une troupe de théâtre, c'est culturel. Et à l'époque, où c'était quand même c'était un peu plus détendu.
Oui, c'était un peu plus détendu.
Ça voilà, passait comme un.
Là, 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 là maintenant, c'est quand même beaucoup plus tendu. C'est redevenu un peu chaud.
Ok. On approche gentiment de la fin, je pense, de cet entretien. Pourquoi pas. En tout cas, vous avez aussi un gros événement qui est le festival de la Belle Rouge,
ouais,
qui est donc en Arriège, si je ne me trompe pas.
En Auvergne.
Puits de Dôme.
Mince. Okay.
Puits de Dôme.
Au Puits de Dôme.
Ben c'est au sud du Puits de Dôme, c'est vers Ambert, où il y a du fromage, la fourme d'Ambert.
Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qui va continuer, que vous faites depuis un certain nombre d'années et qui continue.
Oui, oui. Le premier devait avoir lieu en 2003. Mais on s'est mis en grève, on a mis en grève le festival et toutes les troupes qu'on avait invitées, ils n'avaient pas le choix. Et on est devenu.
Donc ça a commencé en 2004 et là c'est la 20e année, c'est ça?
Ouais,
à peu près. Enfin, il y a le Covid, donc peut-être.
Ouais, c'est ça,
voilà. C'est peut-être pas tout à fait la 20e année, parce qu'il me semble que vu la fatigue qu'on a eue après 2003, parce qu'on n'a jamais arrêté de lutter.
Ouais, c'était peut-être 2005.
On a fait peut-être le premier festival en 2005. Le premier devait avoir lieu en 2003, mais l'année d'après, 2005 jusqu'à maintenant. Avec une période. On a été quand même là-bas, on a joué là-bas, mais pour 50 personnes pendant le Covid.
D'accord, qu'est-ce que.
49 personnes, je crois que c'était le.
Ouais, je peux y aller, pas 5.
Qu'est-ce que vous proposez de particulier pendant cet événement par rapport à ce que vous faites en temps normal?
Bon, là, je ne sais pas ce qu'on va proposer, parce que vu ce qui nous tombe dessus, on va peut-être accueillir les autres et puis peut-être proposer quelque chose d'exceptionnel qu'on trouvera au dernier moment.
Bah, en gros, on fait du théâtre, on accueille des spectacles de théâtre, de chansons. Concerts, balles, cinéma, et puis plein d'ateliers politiques, de débats, ça y en a dizaines à chaque fois, un truc comme ça.
Comment vous faites vous choisissez, c'est votre réseau, je pense, proche, ou comment, même pour les groupes, comment vous
décidez? Pour les groupes, comment on fait pour les groupes?
Bah, c'est ça, c'est notre réseau proche. Hein.
Mais pas que, non, pas que.
Oui, ça nous arrive de.
Bah, du Bamix, tu vois, l'année dernière. On le connaissait comme ça, mais on n'était pas très proches.
Ouais, plus Mehdi.
Moi, je le connaissais.
Plus Mehdi.
Même Mehdi, on le connaissait comme ça. Mmh. On s'est dit, bah oui, c'est chouette. Ben, voilà, on va voir s'il est dans le coin, machin, des trucs comme ça.
Mmh. Ouais.
Après.
Et puis aussi, il faut accepter nos conditions, hein. C'est tout le monde payé pareil, et c'est pas brillant.
C'est ça. Mmh.
Et c'est pas brillant, c'est minimum syndical.
Il y avait un truc, moi je me demandais du coup sur la vente de vos disques. Moi j'ai vu que vous n'étiez pas du tout sur les plateformes de streaming, de téléchargement,
et
machin.
Ben,
c'est que de la vente directe.
Pour l'instant c'est que de la vente directe. Mais là on s'est dit que justement parce qu'il faut qu'on trouve des contrats, il faut qu'on trouve des concerts.
Changement
et donc, on va devenir un peu plus 2.0. Et on va essayer de trouver un distributeur pour être sûr.
Ils arrivent sur les plateformes.
Tant qu'on était là, on n'avait pas besoin de courir après d'aller jouer à tel endroit ou tel endroit. On y allait, on avait plaisir à bouger. Mais ce n'était pas notre recherche. Maintenant, ça va être notre recherche permanente.
Mais c'est vrai qu'à force aussi que les copains jeunes tu vois, nous disent « Ah, mais vous n'êtes pas sur Spotify, vous n'êtes pas sur tel truc. » Ou que aussi les copains qui font des playlists de manif ils nous disent bah en fait je peux pas vous mettre parce que du coup vous êtes pas sur le truc. Tu vois aussi on se dit bon bah à un moment on est sur Facebook, on peut être sur Spotify, tu vois. C'est juste que c'est vrai que c'est pas le même rapport en fait. Nous quand on vend un CD, on vend un CD pour rapporter de l'argent quoi. Enfin tu vois là c'est sûr que tu vas te mettre sur les plateformes, c'est pas pour gagner de l'argent.
C'est pour se faire connaître,
c'est pour que les copains puissent dire ah bah tiens vas-y tiens ils sont, je te file le lien, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas du tout le même objectif. Mais du coup on va voir ce que ça donne quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans les roues alors pour ce début d'année 2024? Il y a quand même des spectacles qui vont bientôt avoir lieu. Comment ça se passe?
C'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué. La situation là, tu sais, c'est difficile de nous parler de ça. Bon, on a Révélation, le dernier spectacle.
Voilà, c'est
qui
ça.
Va être joué dernière semaine du mois de juin au Théâtre de l'Épée de Bois.
Ça porte sujet un peu les questionnements sur l'engagement politique, j'ai l'impression. Ah, parce que j'en ai lu que c'était.
Oui, c'est la prise de conscience des comédiennes et des comédiens qui jouent depuis l'enfance. Enfin, prise de conscience à l'enfance, justement. Peut-être pas prise de. Enfin, comment ils ont été intoxiqués de telle ou telle façon par les parents, par la télé, etc. Comment petit à petit ils ont pris conscience ils ont pris une conscience politique qui a évolué au fur et à mesure du temps, jusqu'au moment où ils sont arrivés à chanter et à jouer sous un drapeau rouge à la compagnie Jolie Mou.
T'as raconté un diagramme, enfin, c'est très inspiré du coup peut-être de votre expérience.
Ah, bah, c'est très proche, c'est évidemment, comment dire, les traits sont gros, évidemment on s'amuse un peu avec, on prend avec humour hein, tout ça. Parce que c'est pas du striptease. Hein.
Ouais, c'est du. Comme on dit, de l'auto.
L'autodérision.
L'autodérision, ouais.
Voilà, mais avec, avec plein de vrais.
Ah oui, bah, bah,
c'est ça qui marche. Ouais. C'est qu'il y a plein de vrais. Et que tout le monde peut se retrouver, parce que le cheminement de. Il y en a qui ont 28 ans, il y en a qui ont.
50 ans.
50 ans. Voilà, c'est il y a plusieurs générations et tout le monde se retrouve dans, je sais pas, ça peut être comment le gamin qui était tué par la par les motards.
Naël.
Non, on n'évoque pas.
Ah.
Non mais.
Ah, Malikou Sékim.
Malikou Sékim, Malikou Sékim, ça peut il y a ceux que les ça qui ont 50 ans, c'est Malikou Sékim.
Oui, c'est.
Il y a les autres, c'est le World Trade Center, c'est Bataclan, enfin.
Ouais, on traverse un peu comme ça des périodes.
Voilà, chacun et le public
surtout. En fait,
où coup, j'étais à ce moment-là, qu'est-ce que je vivais. Et ça nous a beaucoup aimé. Et c'est très musical, bien sûr, tout au long, avec évidemment des hits de l'époque, de temps en temps.
Du coup, pour les auditeurs, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc bientôt sur les plateformes de téléchargement, mais où peut-on suivre votre actualité et vos prochaines dates?
Bah, sur le site, et sinon sur Facebook, Instagram, Twitter, X, je sais plus comment faut dire.
Et on rappelle quand même qu'il y a la conférence de presse, et ceux qui ont envie de venir pour la conférence de presse, oui. La dernière conférence de presse à la Belle Étoile, c'est samedi prochain, rendez-vous à 13h, de 13h à 14h, 14h30. Voilà, ça sera ici, ça sera un peu spectaculaire, ce sera pas non plus... énormément spectaculaire, mais ça sera spectaculaire quand même.
Voilà. Okay, bah on mettra toutes ces informations sur notre site, ainsi que y a une pétition qui tourne encore. Hein, on invite tout le monde 000, à signer. On est pas loin de 10 000, justement, ce que je voyais. Il reste que 500 signatures, donc si vous nous écoutez, allez vite signer ça.
Et en plus, tout en pensant que le maire d'ici a été élu avec 8604 voix
voilà.
sur une ville de 110 000 habitants. 8604 voix. Et il fait l'autocrate. Voilà.
Bref. Petite mise au point.
On dit jamais son nom, je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'est même pas son nom.
Il n'y aura pas besoin.
Voilà.
On va retrouver toutes ces informations. Bah, des prochaines dates, on mettra tout ça disponible en lecture. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir pris le temps de nous avoir invités dans ce lieu.
Désolé de vous avoir fait
lieu.
Attendre. Bon, on a fait ça. On a fait attendre. Il y a des stars.
Merci.
Zep, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et
et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, affligeantes. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon, quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leur saloperie, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre, tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rassons qui n'ont jamais enlevé leur costume de prolon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourès. Tu propages, alimentes la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, ils présentent leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
C'était le morceau « Nique la France » du groupe ZEP, morceau qui nous a été gentiment recommandé par la compagnie Joli Môme. Passons maintenant à la rubrique lecture avec l'article paru dans la Revue du Crieur en 2018 et s'intitulant « Le capitalisme culturel à l'assaut du spectacle vivant. Pourquoi les salles de spectacle passent aux mains du privé ?» Cet article a été écrit par Antoine Pecker et malgré sa parution assez lointaine, donc il y a 6 ans, il nous paraissait pertinent de le reprendre aujourd'hui au vu de l'expulsion du théâtre de la compagnie Joli Môme. Vivendi, Fimalac, Live Nation, vente privée, ces grands groupes ont en commun d'investir dans la musique, le théâtre, le cirque, etc. Leur stratégie repose sur la concentration verticale et horizontale. Ils cherchent à détenir le maximum d'actifs dans le domaine culturel, et ce, à tous les niveaux de la chaîne, des salles de spectacle aux plateformes de billetterie, en passant par la production des artistes. Aujourd'hui, leurs opérations sont facilitées grâce à la complicité de l'État qui, par le biais de crédits d'impôts, délégations de services et autres partenariats, favorise cet essor. Enquête sur ce changement de paradigme majeur de la politique et l'économie culturelle française. Si l'on veut comprendre le paysage du spectacle vivant en France, ce n'est plus au ministère de la Culture qu'il faut se rendre, mais dans certains hôtels particuliers des plus beaux arrondissements parisiens abritant les sièges des grands groupes privés. De Vivendi à Lagardère, en passant par Fimalac et Vente Privée. Ces entreprises ont toutes fait le choix d'investir dans la musique, le théâtre, la danse ou même le cirque. De simples danseuses assouvissant la passion de patrons et pris par des arts, cette époque est révolue. Les motivations sont aujourd'hui bien plus stratégiques. La culture peut déjà améliorer des réputations écornées. Vincent Bolloré, avec ses affaires en Afrique, Marc Ladrette de La Charrière et le Penelope Gate. C'est le fameux capitalisme de la séduction, décrit par le philosophe Michel Clouscar. Mais surtout, la stratégie de ces groupes s'inscrit désormais dans de redoutables modèles économiques, avec à la clé des profits parfois bien juteux. Rappelons que le chiffre d'affaires du spectacle musical et de variété en France en 2015 était de 4,3 milliards d'euros. De quoi susciter les convoitises. Cet essor du privé dans le spectacle vivant s'est considérablement accéléré ces derniers mois avec l'arrivée à la présidence de la République d'Emmanuel Macron. Il y a incontestablement un autre climat depuis son élection. Être un opérateur privé dans la culture n'est plus vu comme honteux, déclare Stéphane Hillel, qui dirige avec le groupe Vente Privée plusieurs théâtres parisiens, dont le Théâtre de Paris. Au fur et à mesure que les moyens publics se réduisent, ceux du privé augmentent. Le spectacle vivant se retrouve ainsi au cœur même du clivage entre anciens et nouveaux mondes. À propos de la porosité entre public et privé, les frontières entre privé et public sont de moins en moins nettes, à commencer par la programmation. Certaines musiques actuelles sont au carrefour entre démarches de création et but commercial. Et dans le théâtre, la porosité est encore plus forte et ne fait que s'accentuer. Le théâtre de la Porte Saint-Martin propose ainsi des pièces de Joël Pomera, une figure de proue du théâtre public, et accueille Catherine Yégel, ancienne actrice de la Comédie française. Il y a de plus en plus d'artistes crossover qui passent du public au privé ou inversement. Aujourd'hui, le spectre du théâtre privé va de TF1 à Arte, observe Antoine Mazur. Avant d'ajouter qu'il faut encourager la reprise de spectacles publics dans le circuit privé. Il y a aujourd'hui trop de spectacles lancés par les scènes et centres nationaux qui meurent après avoir été trop peu joués. Le financement de la création est donc pris en charge par le secteur public et le privé assure les reprises clés en main avec profit en billetterie. La metteuse en scène Mirabelle Rousseau dénonce ces méthodes. On fait de plus en plus entrer l'argent public dans le circuit privé. Je suis personnellement conventionné avec ma compagnie au sein de la DRAC Île-de-France et je donne au privé le fruit de mon travail en allant jouer au théâtre de la Loge. Le problème, c'est que c'est unilatéral. Ce n'est jamais le privé qui va nous financer. En fait, certains théâtres privés se rachètent une éthique en programmant du Pomera. Pomera a créé son spectacle avec l'argent public, puis il le reprend dans le privé. Mais l'argent ne revient pas, ou très peu, au public.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Alors maintenant, on va passer aux différents événements militants et musicaux à venir. Alors ce vendredi 23 février, rendez-vous au CICP pour la release partie de la rappeuse chanteuse féministe et anticapitaliste Aïse Mouzassi. Au programme, des prises de parole et un atelier sur la défense collective de 18h à 19h, suivi d'un buffet et de concerts de 20h30 à 23h. L'entrée est à prix libre. Le 28 mars aura lieu à la soirée Les Murennes Drag Rap. La soirée commencera par un open mic suivi d'un show des rappeuses Esther, Az Mouzazi, encore une fois, Lynx et Changeline, excusez-moi. Des drag shows sont aussi au programme. La soirée est à prix libre, tout elle aussi. Alors le dimanche 10 mars, pour suivre, au CICP, le collectif Contre-Culture, que nous avons invité dans une émission précédente, organise une soirée de soutien à la Fanzinothèque Usine. C'est une bibliothèque de fanzines qui est située au Havre et qui a besoin de fonds pour continuer l'aventure. Au programme de la soirée, des rencontres, discussions, une table de presse et suivi par des concerts. Seront présents Monica and the Explosion, qui est un groupe suédois de folk punk and roll, Foon Curry, qui est un trio de punk rock, et Aquatofana, qui est un groupe de punk féministe. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web musique en lutte, musique avec un S, .noblogs avec un S à blogs.org. Donc on arrive à la fin de l'émission. Encore merci d'avoir écouté jusqu'ici et nous on se retrouve le jeudi 28 mars pour une nouvelle émission. Allez, merci.
passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves. Brisons nos entraves, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entraves, debout, debout, debout.
L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe d'ancêtre. Tous les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre?
Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui les coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa postale, égorge ses reines et préviens ses escrocs qu'il est bon pour la gêne.
Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies, où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole, qui fait ce qu'il plastifie, finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits. Dommage qu'au Burundi, il n'y ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse et égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse et égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon,
les de foie gras,
de perpète, les portes des porcs à perpète,
qui rit comme des morts,
et appelle ça
les fêtes.
En novembre, ils vendent des figurines de G.I. Des tanks et des canons pour la marmaille.
Ouais,
l'arsenal se collectionne.
Les parents qui triment auront-ils la maille?
Voici décembre, c'est parti.
Les Barbies descendent en rappel dans les caddies.
Blondes squelettiques, ne pensons qu'aux quatre quatre de Kate.
Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte?
Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel?
Si tu vois le Père Noël, les vies d'écoute se mêlent, foule dans sa hâte, et les vies nickel, pote feuille, mange sa pomme parme, et d'arche sévène, et prévient cet escroc qui est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, les vies d'écoute se mêlent, foule dans sa hâte, et les vies nickel, pote feuille, mange sa pomme parme, et d'arche sévène, et prévient cet escroc qui est bon pour la GN.
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde, ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes, d'arroser les âmes pour que l'ivresse s'oublie. Que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie.
Que les brevets des médicaments valent de l'or.
Plus de valeur en tout cas que des millions de morts.
C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés.
Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes?
Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres
aux lettres
et le verbe avoir
aux verbettes
et les riches
et les prêtres.
Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiments charitables pour mascarade en guise de fable.
Si tu vois le Père Noël, les vignes écoutent se mêlent, foule dans sa hâte, et les vignes calent, pote feuille, mange sa fausse barbe, et gorge sereine, et prévient cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, les vignes écoutent se mêlent, foule dans sa hâte, et les vignes calent, pote feuille, mange sa fausse barbe, et gorge sereine, et prévient cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, chale!
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire. La voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, 89.4. C'était Psylonia.
Pour les auditeurs d'ado.
Eh ouais, les gosses là.
Si je...
d'où elle est, Yuaka, je fais le
travail. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia,
Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia. Bah t'as un casque.
Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia.
Moi j'ai une casquette. Vous êtes sur Epsilonia?
Epsilonia,
ça sature.
Epsilonia, 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 Epsilonia,
Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia.
Alors ce soir on reçoit Franck.
Epsilonia, Epsilonia,
Franck de Kango.
Epsilonia,
Kango.
Epsilonia, Epsilonia,
ça doit être au moins breton.
Epsilonia, Epsilonia.
Et attends, t'es pas ouvert, tu veux parler?
Epsilonia, Epsilonia.
Je disais, ça doit être breton, mais c'est breton.
Ce soir je reçois Samon.
Epsilonia,
Epsilonia. Parce qu'en fait personne ne connaît la voix de Samon et ce soir j'ai décidé d'offrir aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire la voix de Samon.
Merci. Franck est